Face à l'info sur la première.
La première, face à l'info.
Face à l'info et un invité ce soir, l'économiste Pierre Laroutourouille. Il est membre du Conseil politique d'Europe Écologie, auteur également d'un de ses livres intitulé « Pour éviter le crash ultime ». C'est un invité à la veille d'un sommet européen important pour la zone euro, Eddy Kakelberghs.
Alors effectivement, ce soir, à mi-parcours de ce Xème sommet européen où l'on va sans doute discuter une fois de plus de la solution de la dernière chance, nous avons pris, nous, le parti pris de recevoir Pierre Laroutourouille pour son dernier livre « Pour éviter le crash ultime » aux éditions Nova. Avec lui, nous allons voir comment à la fois il avait été, il y a 3 ans déjà, parmi ceux que l'on avait appelés, c'est le journal Marianne d'ailleurs qui l'avait dit, les 5 prophètes qui avaient annoncé la crise et que l'on n'avait pas écouté. Il n'en tire aucune gloire, il nous le dira, mais par contre ça lui a permis aussi d'anticiper la réflexion sur les causes intrinsèques de cette crise qui n'est pas une crise financière mais une crise plus large, on le sait déjà, et puis sur les solutions et les pistes de réflexion pour changer de paradigme, pour pouvoir appréhender mieux les solutions. Pierre Laroutourouille, donc notre invité ce soir. Pierre Laroutourouille, bonsoir.
Bonsoir.
Alors merci évidemment d'être face à l'info. Demain, il paraît que la France et l'Allemagne vont sauver l'Europe, vous y croyez ?
On aimerait en rigoler. D'abord, je pense que l'Europe, c'est l'ensemble des peuples, l'ensemble des citoyens. Et puis, ça fait des mois qu'on nous explique qu'on va trouver la solution miracle, alors que le problème grec aurait pu être réglé il y a 2 ans, quand on a découvert que le gouvernement de droite grec avait menti sur les comptes. Le problème aurait pu être réglé en quelques semaines. C'est incroyable que c'était juste une petite épine au bout du doigt. Et puis, on a laissé la main pourrir et le bras. Et ça montre bien qu'il y a un énorme problème de fonctionnement de l'Europe, que l'Europe n'est pas assez efficace parce qu'elle n'est pas assez démocratique. Et il y a des solutions. Quand je dis qu'on aurait pu régler le problème en quelques semaines, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est d'accord avec la taxe Tobin, officiellement. En fait, les lobbies font tout pour retarder. Mais aussi bien Mme Merkel que M. Sarkozy disent oui, il faut une taxe Tobin. Prendre 0,1% à chaque fois que quelqu'un achète des actions ou des obligations. Si on avait créé pour de vrai, pas en parole, mais pour de vrai, si on avait créé la taxe Tobin en 2008, on aurait aujourd'hui dans les caisses entre 200 et 600 milliards d'euros. Il y a plusieurs scénarios, mais on aurait entre 200 et 600 milliards d'euros et le Parlement européen aurait pu régler le problème de la Grèce. Je vous rappelle qu'on cherchait 50 milliards pour sauver la Grèce. On cherchait 50 milliards en 2009, on en cherche 110 aujourd'hui. Mais on n'avait pas besoin de demander un effort aux citoyens, on n'avait pas besoin de demander un effort au peuple allemand, au peuple belge, au peuple polonais. C'est les marchés financiers, avec la taxe Tobin, on aurait fait payer par les marchés financiers les erreurs que certains ont accumulées. Et le problème aurait été réglé en quelques semaines. Donc on voit bien ce qu'il en coûte, la lenteur des politiques, parce qu'on est encore au niveau européen dans un système à l'unanimité. Il faut que tous les chefs d'État soient d'accord et il y a des lobbies financiers considérables qui font tout pour ralentir l'évolution.
Oui, je le dis et je le répète, votre livre « Pour éviter le crash ultime » est publié chez Nova en mai dernier. Vous n'êtes donc pas suspect là non plus lorsque vous mettez 3 phrases que je vais lire en exergue de votre livre. Je commence dans le sens inverse de celle que vous citez. Vous citez d'abord un général d'armée, Douglas MacArthur, qui dit « L'histoire de toutes les grandes défaites se résume en 2 mots, trop tard ». Et on a déjà le sentiment, rien qu'avec cette première phrase de MacArthur, Pierre Laroutourouille, que l'on caractérise tout de ces sommets depuis le 21 juillet dernier. Les plus grands commentateurs, ceux qui sont issus du milieu financier eux-mêmes, ont dit trop tard.
D'abord, il y a un manque de travail de nos politiques. Moi, je suis atterré. Je vois en France et parfois à Bruxelles, quand je rencontre des dirigeants, leur manque de travail. Peut-être en France à cause du cumul des mandats, mais encore au mois de juillet, certains m'expliquaient que je m'inquiétais pour rien. Ou regardez le sommet du G8 à Deauville, quand les 8 chefs d'État les plus importants de la planète se sont retrouvés à la fin du mois de mai, il n'y a pas eu une minute sur la crise financière. Jusqu'à la mi-juillet, ils étaient tous optimistes, optimistes, optimistes. Et on se moquait de nous, alors qu'il y a pas 18 mois, j'avais fait un débat avec Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, où déjà on disait qu'on était seulement dans l'œil du cyclone, que la crise n'était pas finie. Stiglitz était tout à fait d'accord avec l'analyse que je proposais. On disait on est dans l'œil du cyclone, on va vers une deuxième crise qui peut être plus grave, et profitons de cette période d'accalmie pour changer très vite notre fonctionnement et mettre en place des nouvelles règles du jeu. La bonne nouvelle, je voudrais quand même que tous ceux celles qui nous écoutent ne dépriment pas. On peut aller vers une crise beaucoup plus grave, mais s'il y a la volonté politique, on peut changer les choses en quelques semaines. Ce que je montre dans ce livre, c'est que quand Roosevelt arrive au pouvoir, les États-Unis vont très très mal, mais en trois mois, Roosevelt fait passer 15 grandes réformes sur les banques, sur la fiscalité, pour taxer les bénéfices, pour taxer les plus hauts revenus, pour donner du boulot au plus grand nombre. Alors tout n'a pas marché, mais ce qu'a fait Roosevelt en 3 mois a permis d'avoir 50 ans de stabilité aux États-Unis. Alors qu'avant, il y avait eu le président Hoover qui n'avait rien fait pendant 3 ans. Donc il y a des solutions, mais il faut que les citoyens s'expriment et fassent pression sur les politiques.
Oui, les politiques, ou à propos desquelles vous citez une deuxième phrase d'un deuxième auteur, prix Nobel d'économie, c'est Paul Krugman qui dit « Nos dirigeants sont dans le déni de la réalité, ils enrobent tout de sucre, ils fuient leurs responsabilités. » C'est pour ça que votre premier chapitre, c'est « Dire la vérité, dire la gravité de la crise ».
Oui, ben dire la gravité, c'est d'abord la crise sociale. Dans tous nos pays, la première mesure, on parle beaucoup de la crise financière et c'est normal, mais dans tous nos pays, il y a un nombre de chômeurs, de précaires considérables. Les chiffres officiels, c'est 22% de chômage en Espagne, mais il y en a des millions qui sont sortis des statistiques parce qu'ils sont en fin de droit, ils sont dans une galère totale. Moi, dans mon quartier, j'habite Paris, quand je vais chercher les enfants à l'école le soir, je vois des gens qui attendent les poubelles du Monoprix pour trouver de la nourriture. On n'a jamais été dans un pays aussi riche. Malgré la crise, on est quand même dans des pays très riches. Et il y a des gens qui dorment dehors, je pense que c'est pareil à Bruxelles, il y a des gens qui dorment dehors et qui attendent des poubelles pour manger. Donc d'abord, c'est la crise sociale qui est très grave. Et après ça, ce que je montre, et d'autres hélas le disent aussi, c'est qu'on va vers une deuxième crise parce qu'il y a deux bombes à retardement dans le système économique. Les États-Unis et la Chine. Deux chiffres, aux États-Unis, la dette totale vient de passer les 350% du PIB. 350% du PIB aux États-Unis, même en créant plein d'argent, ils font tourner la planche à billets, ils créent des centaines de milliards de dollars, l'économie ne repart pas. 350% de dette aux États-Unis. Quant à la Chine, c'est la plus grosse bulle immobilière qu'on a jamais vue. La bulle immobilière en Chine est deux fois plus grosse que le maximum qu'on avait atteint avec la bulle aux États-Unis avant les subprimes. Vous avez peut-être vu la semaine dernière, c'est un village chinois qui a inauguré une tour, un immeuble plus grand que la tour Eiffel. Ils sont endettés sur plus de 100 ans, mais ils ont voulu, c'est un village dans un endroit tout à fait paumé, c'est même pas une cité balnéaire qui pourrait espérer attirer du monde. Il y a une démesure, on est dans la fuite en avant totale. En Chine, ils ont injecté 44% du PIB en un an. Au lieu de changer de modèle de développement, au lieu de donner des vrais salaires, des vraies conditions de vie à leurs salariés, le dumping social et écologique continue en Chine. Et pour tirer la croissance, ils comptent sur les exportations mais qui faiblissent et ils comptent sur une énorme bulle d'investissement. Et le problème, c'est que depuis 3 mois, la bulle immobilière commence à se fissurer en Chine. On a les premiers indicateurs du fait que la bulle va bientôt éclater. Donc oui, on va vers une crise. La question est de savoir est-ce que ça va être une crise catastrophe, un tsunami. Le président Sarkozy à l'Élysée disait il y a 2 semaines qu'on allait vers un tsunami économique. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait juste des grosses turbulences. On ne pourra pas éviter la crise, mais le but, c'est que juste ce soit des grosses turbulences qui nous permettent d'améliorer notre contrat social dans tous nos pays, qui nous permettent d'améliorer le fonctionnement de l'Europe, de faire une Europe plus démocratique et de mettre des règles sociales et écologiques dans la mondialisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Si vous avez vu dans le livre, je fais pas mal de propositions concrètes.
Tout à fait.
Il vient de lancer un appel au G20. Concrètement, pour dire qu'il y a des solutions et que la même crise peut avoir un impact social très différent, la récession économique en 2009 a été 2 fois plus grave en Allemagne qu'en France. La récession est à moins 5% en Allemagne et seulement à moins 2,4% en France. Mais le chômage a augmenté 6 fois moins vite, 6 fois moins vite en Allemagne. Pourquoi ? Parce que les syndicats se sont réveillés, ils sont allés voir Merkel, ils ont dit le licenciement, ça doit être l'exception. Et la règle normale, c'est même si l'entreprise va mal, on garde tous les salariés, on baisse le temps de travail et on maintient le revenu. Donc c'est ce qu'on appelait le Kurzarbeit en Allemagne. Il y a 1 500 000 salariés, ce n'est pas 2 ou 3 personnes. 1 500 000 salariés qui ont gardé leur boulot, ils ont baissé le temps de travail de 30% en moyenne et l'État maintient le revenu. Le salaire baisse, mais Mme Merkel régulièrement fait des chèques, alors que Sarkozy en France fait le contraire, il dit qu'il faut travailler plus. Mme Merkel a accepté d'écouter les syndicats et donc avec une récession 2 fois plus grave qu'en France, le chômage a augmenté 6 fois moins vite parce qu'ils ont baissé le temps de travail au lieu de licencier. Donc voyez, très concrètement, j'ai montré qu'avec, si on crée une taxe Tobin tout de suite, quand le mur de Berlin est tombé, Helmut Kohl et François Mitterrand ont pris la décision en un mois, la décision de lancer la monnaie unique, elle a été prise en 30 jours. Donc la taxe Tobin, on pourrait pour financer le Fonds européen de stabilité, on pourrait dire qu'à partir de maintenant, on crée pour de vrai la taxe Tobin. Et donc c'est la dernière fois que le peuple allemand ou le peuple belge ou le peuple français ont dû se serrer la ceinture. Donc on peut réguler les banques, Quand Roosevelt arrive, les banquiers sont furieux, les actionnaires gueulent, mais il coupe les banques en deux, il sépare les banques d'affaires et les banques de dépôt. Du coup, s'il y a un tsunami sur les marchés financiers, ça n'a aucun impact sur l'épargne des gens et sur la vie économique réelle. Tout ça, on peut le faire en quelques semaines. C'est une question de volonté politique. Or, pour le moment, c'est les lobbies financiers qui continuent à tout ralentir.
Mais vous citez d'ailleurs à cet égard le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. Vous disiez d'ailleurs avoir débattu avec lui. Et vous le citez lorsqu'il dit « Depuis 2 ans, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic ». Là, vraiment, l'image est totale.
Et sur la question des lobbies, pour mettre les pieds dans le plat, parce qu'en Europe, c'est un sujet tabou. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde dit que Goldman Sachs est en train de tuer la démocratie, et que l'on vote pour Bush ou pour Clinton ou pour Obama, c'est Goldman Sachs qui fait les lois. Mais ce que je raconte à la fin de mon livre, c'est comment, au bout de plus d'une heure à l'Élysée, j'ai rencontré Henri Guénaud, que vous connaissez, qui est le conseiller spécial du président Sarkozy, et je lui ai montré la courbe aux États-Unis, la courbe de la dette en Chine, la courbe du chômage. Et donc Guénaud me dit, je partage votre inquiétude. Je lui ai dit, mais alors pourquoi vous faites rien? Pourquoi le président Sarkozy ne fait rien contre le chômage, ne fait rien pour sortir de la crise? Il commence par trouver des fausses excuses, et à la fin, il me lâche le morceau. Il me dit que le vrai conseiller du président Sarkozy, c'est Michel Pebro, le patron de BNP Paribas, une des plus grandes banques. Et c'est quand même terrifiant, on est au premier étage de l'Élysée, au cœur du pouvoir, et celui qui a le titre de conseiller spécial du président me dit qu'en vrai, le vrai conseiller spécial du président, c'est un des plus grands banquiers du pays. Et qu'il vient régulièrement à l'Élysée pour dire que les banques françaises vont bien, qu'il ne faut pas changer de politique. Ça, c'était il y a quelques mois. Donc il faut que les citoyens prennent, c'est pour ça que j'ai fait ce livre et que Stéphane Hessel a fait une préface pour donner envie aux gens de le lire, il faut qu'on prenne tous 2 ou 3 heures. On ne peut pas continuer à faire confiance à des dirigeants qui n'ont pas vu venir la crise de 2008, ils n'ont pas vu venir la deuxième crise. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible à prendre un petit moment pour réfléchir et à mettre des idées fortes dans le débat public.
Mais vous dites d'ailleurs en conclusion, tous acteurs, tous responsables, personne ne peut se croiser les bras.
Oui, encore une fois, le mur de Berlin, si on avait attendu un accord entre diplomates, le mur de Berlin, il serait toujours là. Ce sont des citoyens qui ont décidé que le système soviétique était insupportable parce qu'il abîmait trop de gens et il foutait en l'air des millions de libertés. Ce sont des citoyens qui se sont levés. Eh bien, aujourd'hui, on est dans un système qui fait des dégâts considérables. Il y a des millions de chômeurs en Europe, il y a des millions de précaires, il y a des gens qui sont très inquiets pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur retraite, pour les services publics. Et on va vers une aggravation de la crise. On est peut-être dans ce moment un peu béni où tout le monde sent que c'est grave et c'est pas encore foutu. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on se réveille, mais on n'a pas le droit de se tromper. Il faut des solutions radicales, mais qui soient les bonnes. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un bon diagnostic. C'est pour ça que je commence par 30 pages, je crois que c'est très facile à lire, mais avec des vrais chiffres, avec des courbes qui expliquent bien d'où vient la crise. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Et si on pose le bon diagnostic, on voit les 10 mesures à prendre en urgence, et puis 10 mesures de moyen terme pour reconstruire un système différent.
Parce que, et vous citez, et vos sources sont incontestables, vous citez par exemple la banque Morgan Stanley qui juge inévitable la faillite de certains pays riches, vous les citez, la question n'est pas de savoir si des gouvernements vont faire faillite, mais quand et comment.
Oui, ça c'est si on ne change pas la fiscalité. Mais encore une fois, quand Roosevelt arrive au pouvoir, en quelques semaines, je me répète, mais c'est pour dire que ça a marché, ça a donné 50 ans de stabilité. Il y a une courbe dans le livre qui est très impressionnante, c'est qu'on voit que c'est seulement à l'arrivée de Ronald Reagan en 1981 qu'on commence à avoir besoin de dettes privées et de dettes publiques aux États-Unis. Mais jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, le système marchait très bien sans avoir besoin ni de dettes privées ni de dettes publiques. Et Ronald Reagan baisse les impôts sur les plus riches, ce qui fait la dette publique, et surtout, on casse les régulations sociales, et dans tous les pays, dans tous nos pays, depuis 30 ans, ce qui va au salaire diminue. Je montre que ce qui va au salaire dans l'ensemble des pays occidentaux, ça a baissé de 10% du PIB. Je ne vais pas être trop technique là à la radio, mais au total, c'est 150% du PIB, si on fait au total depuis 30 ans, 150% du PIB de tous nos pays qui aurait dû aller aux salariés et aux caisses de sécu et à l'État, 150% du PIB qui sont allés au marché financier. Le Figaro en France, qui n'est pas très à gauche, qui disait l'autre jour qu'il y a une étude qui montre que la fortune cumulée des 0,2% des individus les plus riches, les 0,2%, leur fortune cumulée, c'est 39 000 milliards de dollars. 39 000 milliards. Alors que l'Europe cherche juste 100 milliards pour sauver la Grèce. Et la fortune des 0,2% les plus riches, c'est 39 000. Donc oui, par la fiscalité, on peut agir avec une taxe Tobin, avec un impôt européen sur les bénéfices, pas un impôt sur les personnes, mais un impôt sur les bénéfices, en augmentant, quand Roosevelt arrive, il dit au-dessus d'un certain niveau de revenu, je prends 70%. Il y a des gens qui gagnent 50 000 euros par mois, ils n'en mourraient pas si au-dessus d'un certain niveau, on prenait 50% ou 70%. Et cet argent serait plus utile pour créer des emplois ou pour améliorer le financement des hôpitaux ou des retraites. Mmh. Donc oui, il y a des solutions. Simplement, je le répète, il faut que les citoyens soient plus nombreux à s'engager dans le débat public parce que nos politiques manquent de courage.
Alors, vous avez rappelé, et vous le décrivez dans votre livre, trois points clés, notamment dans votre dialogue avec Stiglitz, hein, et vous dites qu'il a raison quand il parle de triomphe de la cupidité, vous venez de l'évoquer. L'idée aussi que le chômage n'est pas seulement, vous le dites, l'une des conséquences de la crise, il en est une des causes fondamentales, vous l'avez évoqué. Et puis vous dites, le problème ce n'est pas l'État, ce que l'on nous dit souvent, c'est d'abord et avant tout les inégalités qui se sont creusées dans le secteur privé.
Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de plus en plus de dettes ? C'est, je l'ai dit, parce qu'on a trop baissé les impôts sur les plus riches, sur les grandes entreprises. Et puis surtout qu'à cause du chômage, et parce qu'on a supprimé les règles sur les salaires, dans beaucoup d'entreprises, en Belgique, comme en France ou en Allemagne, la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Quand il y a des milliers de chômeurs qui voudraient votre boulot, qui c'est qui peut exiger une augmentation ? Donc dans tous les pays, ce qui va au salaire diminue. Et c'est pour ça qu'on a poussé les gens à s'endetter. On a dit aux Espagnols, aux Anglais, aux Américains, aux Belges, aux Allemands, on leur a dit « Ok, vous avez des petits boulots, vous avez des petits salaires, mais vous pouvez quand même acheter une voiture ou un appartement, vous pouvez vous endetter. » Donc on a caché le problème de la baisse des salaires en poussant les gens à s'endetter. C'est la dette privée. Et depuis 3 ans, on continue avec la dette publique. Et maintenant, on est au bout du bout du bout du système. Il faut reconstruire la justice sociale. Et la bonne nouvelle, je vais pas être trop long, mais on parle beaucoup de Bretton Woods. Vous savez, en 1944, le grand sommet de Bretton Woods qui dure 3 semaines avec tous les grands économistes de la planète pour reconstruire un système financier et un système bancaire solide. Mais avant Bretton Woods, la première rencontre des chefs d'État pour reconstruire le système après la Deuxième Guerre mondiale, c'est Philadelphie. Et à Philadelphie, tous les chefs d'État signent une déclaration qui est très très forte et qui disent « il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale ». Roosevelt et les autres signent un texte qui dit « le travail humain n'est pas une marchandise ». Ils expliquent que dans tous les pays, comme dans le commerce mondial, ils insistent, dans chaque pays comme dans le commerce mondial, il faut des règles concrètes sur les salaires minimums, sur la durée du travail, sur la répartition entre les salariés et les actionnaires. C'était pas du pipeau, c'était pas des bonnes intentions, c'était des règles concrètes sur le partage entre salariés et actionnaires. Et ça a donné 30 ans de stabilité jusqu'à que les libéraux les fichent en l'air.
Vous citez également Pierre Mendès-France qui écrivait en 1930 qu'il y avait une course de vitesse, je le cite, hein, entre l'international des peuples et l'international des capitaux. Et vous dites c'est pour faire gagner l'international des peuples qu'il voulait créer une monnaie unique européenne avec un gouvernement politique et un vrai projet social. On a l'une, la monnaie, on n'a pas l'autre.
On n'a pas le gouvernement politique de l'Europe. On est paralysé par l'unanimité et par le poids des lobbies, et on n'a pas le projet social. Vous vous souvenez, vous m'aviez invité une fois, en 2004, on avait rédigé un projet de traité social européen, déjà avec Stéphane Hessel, avec aussi bien le soutien de Romano Prodi, qui nous avait reçu quand il était président de la Commission. On avait dit qu'il faut compléter les traités européens avec un impôt européen sur les bénéfices. Il faut une fiscalité, il faut taxer la taxe Tobin et un impôt sur les bénéfices, et il faut des critères de convergence sociaux. Plutôt que pour éviter les délocalisations vers la Roumanie ou vers l'Estonie, il faut que tous les pays d'Europe convergent en matière sociale vers en haut. Et Romano Prodi nous avait reçus et avait dit que la Convention Giscard devrait intégrer dans les traités cette idée d'un impôt européen sur les bénéfices et ses critères sociaux. Hélas, Romano Prodi et Jacques Delors étaient d'accord avec nous, au Bronislas Guéremec ou plein de syndicalistes de différents pays d'Europe. Jean-Maurice de Housse en Belgique avait été très actif aussi. Et le problème, c'est que Giscard n'a pas voulu, la Convention Giscard n'a pas voulu d'un traité social. Et on le paye aujourd'hui.
Alors, vous faites des propositions que l'on pourrait imaginer, voir figurer demain sur la table du sommet européen. Vous dites voter un nouveau Glass-Steagall Act, c'est-à-dire reséparer en fait les banques à risque des banques classiques, hein, en tout cas dans leurs activités. Changer notre fiscalité, vous l'avez dit, au niveau national comme au niveau européen. Et puis vous dites, en trois, boycotter les banques et l'ensemble des entreprises qui travaillent avec les paradis fiscaux. Voilà 3 points qui pourraient être pris rapidement.
Oui, ou responsabiliser, mettre fin à toutes les économies, toutes les baisses d'impôts, surtout, pardon, toutes les baisses d'impôts qu'on a fait depuis 10 ans. En France, je ne connais pas le détail pour la Belgique, mais en France, il y a un rapport fait par des députés UMP qui montre que tous les cadeaux qu'on a fait aux plus riches et aux grandes entreprises depuis 10 ans, si on annule ces cadeaux et si on revient à la fiscalité telle qu'elle existait en l'an 2000, et ça marchait très bien, on aurait 100 milliards d'euros chaque année en plus dans les caisses. Notre déficit ne serait que de 1% du PIB, simplement si on annulait tous les cadeaux qu'on a fait depuis 10 ans. Donc il y a des marges de manœuvre. Au lieu de dire qu'il faut baisser les retraites, qu'il n'y a pas d'argent pour la santé ou pour l'éducation, il y a des marges de manœuvre si on le veut.
Alors, en 92-93, lorsqu'il va quitter l'Europe, Jacques Delors fait un livre blanc sur la relance de la compétitivité et de l'emploi en parlant de 12 grands travaux. Vous faites un peu la même chose, sauf que vous demandez de changer de modèle, évidemment. Quoique, vous ne demandez pas l'éradication du modèle en tant que tel, mais vous dites, par exemple, il faut investir massivement dans le logement. Et vous nous dites, par exemple, si les loyers en France tombaient au même niveau qu'en Allemagne, l'économie serait de 280 euros chaque mois pour un appartement de 70 mètres carrés, 70 mètres carrés, 280 euros d'économie par mois, ça compte dans le budget d'un ménage.
Mais bien sûr, avec le même salaire, si votre loyer vous coûte 290 euros de moins chaque mois, ben on vit beaucoup mieux. Donc ça, c'est une question politique. En France, le fonds de réserve des retraites est toujours placé sur les marchés financiers. Alors qu'on a perdu 30% depuis 3 mois, eh ben il y a des lobbies qui font qu'on continue à donner cet argent à gérer par des banques, BNP Paribas, Barclays. Donc notre fonds de réserve des retraites est très mal utilisé. Mmh. Alors qu'aux Pays-Bas, le fonds de réserve des retraites est utilisé pour financer des logements. Et c'est rentable, parce que les gens payent des loyers tous les mois. C'est des coopératives qui sont gérées par les syndicats et par les partenaires sociaux. Et le fonds de réserve, au lieu d'être sur les marchés financiers, il a été utilisé pour faire des logements. Et du coup, les loyers sont moins chers et ça crée des emplois et ça profite à tout le monde. Ouais. La compétitivité, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. La compétitivité, si on améliore la formation, si on améliore l'efficacité des entreprises, c'est très bien. Mais il faut faire attention. En Allemagne, tout le monde dit que l'Allemagne a amélioré sa compétitivité depuis 10 ans. C'est vrai et c'est faux. Le bilan de Hartz IV, c'est quand même qu'il y a 6 millions d'Allemands qui sont tombés dans la classe défavorisée. Donc il y a en même temps des choses très bien en Allemagne, dans le rôle des banques pour aider les PME, dans la formation, dans la co-gestion, il y a des choses très bien. Ou dans le Kurzarbeit, je l'ai dit tout à l'heure, on a évité beaucoup de chômage depuis 3 ans grâce au Kurzarbeit. Mais quand même, Hartz IV, ça a provoqué des millions de gens qui sont en situation de grande précarité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une partie des Allemands disent maintenant qu'ils en ont marre de payer pour d'autres. Oui. Donc faisons attention que la compétitivité, il y a une bonne compétitivité, c'est améliorer les produits, améliorer le niveau de formation, améliorer la cohésion sociale. Mais il y a une compétitivité qui joue bien à court terme, mais qui est très dangereuse. Et je pense que dès l'année prochaine, et c'est pour ça que la récession était si grave en 2009 en Allemagne, c'est qu'il y avait des millions de gens qui n'avaient que des petits boulots et qui donc ne pouvaient pas consommer. Et quand les exportations se sont plantées, l'Allemagne est tombée en récession très grave. Je pense que dès l'année prochaine, on va se rendre compte que l'Allemagne retombe soit en récession, soit une croissance quasiment zéro. Parce que si les exportations diminuent, il n'y a plus assez de consommation intérieure.
Alors, celles et ceux qui vont vous lire, Pierre Larouturou, je vous coupe, mais découvriront pas mal d'autres pistes, hein, développer une agriculture durable, développer les services à la personne, réparer, recycler, réutiliser, éviter cette péremption qui pousse à la consommation, favoriser la croissance et le pilotage des PME. Vous parlez évidemment aussi de développer les énergies renouvelables, de lutter contre le ravage climatique, et vous dites une grande politique avec la Banque européenne d'investissement qui soutiendrait les plans d'économie d'énergie pourrait faire gagner 1 000 euros par ménage par an. Ce n'est pas vous qui le dites d'ailleurs, c'est la Commission européenne. Je voudrais vous entendre encore d'un mot au final. Vous dites créer un service civil européen. Si l'on mettait tous celles et ceux qui n'ont plus de service militaire, de service national à faire au service des collectivités, cela résoudrait aussi une part du problème.
C'est une partie de la solution. Je crois qu'il faut qu'on conclue. Je voudrais vous renvoyer vers le site pour éviter l'effondrement. On a lancé avec d'autres économistes un appel au G20. Il y a le sommet européen demain, mais il y a le G20 qui se réunit dans 10 jours. Et c'est un G20 fondamental qui doit prendre des décisions d'urgence. Donc tous ceux et celles qui le veulent, vous allez sur pour-éviter-l'effondrement.fr, tout attaché, et vous verrez 10 propositions concrètes qu'on demande aux dirigeants du G20 de mettre en œuvre très vite, avant qu'il soit trop tard.
Oui, c'est par exemple ainsi que vous verrez que pour créer ce service civil européen, vous dites qu'on pourrait ainsi construire, par exemple, pour la gestion des ressources de l'eau, des milliers de mini-réservoirs, de milliers de micro-citernes pour garder l'eau quand elle est disponible. Ce sont des pistes très concrètes
dans
que vous proposez.
Dans les pays du Sud, hein. Oui, dans les pays du Sud, il faut tout faire pour arrêter le dérèglement climatique et pour baisser nos factures d'énergie, en même temps faire baisser nos factures, sortir de la dépendance au pétrole et sauver le climat. Mais de toute façon, hélas, vu ce qu'on a fait depuis 50 ans, il y a un dérèglement climatique qu'on ne va pas pouvoir stopper tout de suite. Donc il faut effectivement aider les pays où l'impact va être le plus fort, les pays du Sud ou en Inde ou en Chine. Il faut leur permettre, il faut les aider. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'éviter un affrontement. Quand vous voyez comment même le ministre Schäuble en Allemagne, qui est pourtant un homme très raisonnable, commence à insulter Obama, il dit même pas le président Obama ou Barack Obama, il insulte devant 200 journalistes Obama. Quand vous voyez comment Madame Clinton dit que les États-Unis pourraient aller en guerre économique contre la Chine, on voit bien qu'on est dans un moment de grande tension. Notre objectif à nous, c'est de dire on va s'en sortir par la coopération et par la justice sociale. C'est pas par le nationalisme, c'est pas par le dumping social, c'est pas en abîmant les services publics ou en baissant les retraites. La solution, c'est la coopération entre les pays et la justice sociale. Et c'est ça le... On est dans un moment crucial où ça peut basculer soit du bon côté, soit du pire. La crise de 1929, elle a débouché sur la barbarie. Ça s'est joué en quelques mois.
Pour éviter...
Vous parliez de Pierre Mendès-France. En 1930, si on avait écouté Mendès-France, on pouvait avoir un sursaut européen. Mais 3 ans plus tard, une fois que Hitler est arrivé au pouvoir, il n'y a plus personne qui parlait d'un sursaut européen. Ouais. Donc on est dans ce moment où il y a encore plein de choses possibles, mais il ne faut pas trop tarder à agir.
Pour éviter l'effondrement.fr, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Le dernier mot à votre préfacier, Stéphane Hessel, qui conclut « Quel que soit notre âge, nous devons toutes et tous agir pour humaniser la mondialisation. En ce printemps 2011, il flotte sur tous les continents un désir de justice et de liberté. Ne laissons pas ce désir retomber. » C'était aussi le message que les indignés portaient un peu aux quatre coins de la planète ces temps-ci, vers celles et ceux qui se réunissent demain en sommet européen et au G20. Merci Pierre Larouturou. Votre livre aussi, hein, pour éviter le crash ultime, c'est aux éditions Nova. Merci d'avoir été Face à l'info. On en reste là pour ce soir.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.